Canalem, on aime l'été.
On fera pas nos plates, on rappellera pas la météo, on rappellera pas qu'on est dans la flotte et que Mariah Carey est au Festival d'été de Québec pour la première fois au monde, je crois, si je ne m'abuse, et que c'est la flotte pour elle et que je suis déçue, mais un petit peu moins triste parce que j'ai pas ma passe. Kevin Breton, bonjour.
Allô, Emmanuel, moi j'ai aucune position, aucune opinion vis-à-vis Mariah Carey, mais par contre je suis un peu fâché d'être arrivé aujourd'hui tout mouillé, tout trempé.
Moi, par souci de transparence, tout le monde, je vous avoue que j'ai failli manquer la première minute de micro. Je suis arrivée très flush, pour dire en bon français,
à cette émission. On a même dû venir te porter ton café.
C'est vrai. C'est vrai, mais on est là, très heureuse d'être là. Tous les deux, autre souci de transparence, pas un souci, mais on est transparent. On est en remplacement de Louis Garon, que vous venez d'entendre au quotidien, lui-même en remplacement d'Hélène Denis. Que voulez-vous, on est une équipe qui se tient.
Oui, une équipe de domino, mais qui se tient.
Comment? C'est vrai. Et pour ce faire, lors de l'émission, il y a des topos qui vous ont été préparés, dont avec moi et François Baruel, qui s'est préalablement entretenu avec Louis Garon. Donc, on va quand même entendre sa douce voix au cours de la prochaine heure et demie. Et par tout hasard, notre corps est très à l'honneur aujourd'hui, en commençant par François Baruel, qui nous parle d'hyperhidrose, mot scientifique pour quelque chose de bien connu, mais on n'en dit pas plus, on garde le suspense, la curiosité à vif.
Dans le moins scientifique, on va aussi parler de pets. Tu as décidé de nous parler de pets aujourd'hui, de flatulence.
C'est vrai.
Emmanuel, tu vas-tu faire des jokes de pets?
Non,
des jokes de pets.
Et ni de pets de tour de bras. Non, ça va être très sérieux. C'est très sérieux. Oui, je vous parle de pet, je vous parle de psychosomatisation également. On parle d'un défi vélo qui va loin dès demain.
Et on va également vous parler d'un événement qui vous invite à aller à la rencontre de 8 auteurs prolifiques, l'événement Au fil des mots, au fil de l'eau.
Et à Baie-Saint-Paul, on accueille le 37e Symposium international d'art contemporain. Bienvenue à M'l'été. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my... White. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
I want to ride my bicycle.
Un homme qui aime faire du bicycle, c'est un bénévole ici chez Vues et Voix, Yvan Deslauriers, l'homme au gros mollet. En tout cas, je le soupçonne parce qu'il fait beaucoup de vélo dans son temps libre. Bonjour Yvan.
Je commenterai pas ça.
Non, mais je trouve pas que c'est une belle manière de te présenter.
Marie qui est à côté, elle doit être
d'accord. Ça bien drôle. Ouais. On parlera pas uniquement de ton corps, même si Emmanuel le dit en introduction, c'est une émission où on va être très corporel.
On parle beaucoup du corps, effectivement, du corps. Et le tien va être en forme à partir de demain. J'espère qu'il l'est déjà.
Tellement me faire
trêve de plaisanterie en fait, ouais. trêve de plaisanterie en fait. Demain, c'est le défi vélo des greffés Lina Cyr qui s'amorce. C'est une tradition, ça commence donc le 12 juillet. Tu vas y participer, Yvan. Tu vas aussi accepter que je te tutoie, vu que tu es bénévole ici puis qu'on est une grande famille chez Vues et Voix.
Oui, je te permets.
C'est au bénéfice de la maison des greffés.
Oui.
De ce que j'ai compris en lisant, c'est important d'amasser des fonds pour cette maison-là parce qu'il y a beaucoup de coûts associés à des greffes. Ça peut être, par exemple, une greffe de poumon, une greffe de cœur, une greffe de tissu. Il y a ces frais-là qui sont habituellement couverts, mais il y a d'autres frais qui s'associent à ça, souvent liés à l'hébergement, qui peuvent être très coûteux.
Oui. Mais il faut penser que pour recevoir une greffe, il faut être là, il faut être proche.
Mm-hmm.
Alors, à travers le Québec, il y a plein de gens qui attendent des greffes. Présentement, sur la liste d'attente, je pense qu'il y a près de 800 personnes qui attendent
une greffe.
Et les organes, ils deviennent. On n'a pas longtemps d'avance pour savoir qu'il y a un organe qui se présente.
Exact.
Alors, quand on devient dans les 10 ou 20 dans la liste d'attente, on nous demande d'être proche d'un hôpital de Montréal parce que c'est là que les transplantations
se font. Il n'y a pas de transplantation à Gaspé.
C'est ça, si on est en Gaspésie, on s'organise un voyage.
Je pense qu'il y en a à Québec, mais je suis là.
Mais dans les grands centres, mais clairement, quand on s'éloigne.
Alors, la personne de Gaspésie ou la personne de l'Abitibi en particulier, parce qu'il y a une équipe de l'Abitibi, eux autres, il faut qu'ils se déplacent. Il faut qu'ils viennent vivre ici.
Pendant X temps, parce qu'on ne le sait pas, je suis 11e, mais qu'est-ce que ça veut dire être 11e?
Tout à fait. Okay. Et une fois que la transplantation est faite, tu t'en vas pas chez vous tout de suite non plus.
Mm-hmm.
Alors, il y a une question de vie à organiser. Et la maison Lina Cyr a été créée, ça c'est la 25e année, il me semble, a été créée spécifiquement pour permettre à des gens de l'extérieur de venir vivre à Montréal en attendant une greffe, en faisant les suivis de la greffe, etc. Il y a de la place là, c'est un ancien couvent. Il y a de la place là pour les gens qui attendent.
C'est 28 chambres d'ailleurs, que je disais.
Oui, c'est ça, exactement.
Simple ou double.
Donc, les personnes peuvent vivre là. Ils vivent en moyenne 18 mois. Donc,
pour vrai?
Oui.
Avant, après, donc?
Avant, pendant, après.
Oui, OK.
Ouais. C'est tout près du parc La Fontaine.
Et j'imagine qu'on peut venir avec nos proches aussi, parce que je pense dans le cas d'un mineur, mais non seulement ça, souvent on est sous des soins quelconques et on ne voyage pas seul. Ouais. On va avoir besoin aussi d'assistance par la suite. Là.
Alors, la maison a été créée pour ça. Elle est unique au Canada. Je pense qu'elle est unique pas mal dans le monde, même pour ce genre de service-là.
C'est très spécialisé. En fait.
Et les gens qui demeurent là payent 25 $ par jour. Logé, nourri.
Beaucoup moins cher qu'un Airbnb ou bien une chambre d'hôtel.
Oui. Puis, ils sont entourés de gens qui connaissent le domaine de la greffe, des gens qui attendent comme eux autres. Donc, ils se créent toutes sortes de liens. Et c'est d'ailleurs à partir de ces liens-là qu'il y a deux bonhommes à un moment donné qui ont décidé que pour aider au financement, on va faire un défi vélo. C'est la 11e fois qu'on le fait.
Mais pas toi.
Moi, c'est ma 5e.
Ben quand même. Hein?
Et c'est un défi vélo qui n'est pas si banal que ça. D'abord, c'est un des plus beaux événements vélo que moi, que je fais.
Mm-hmm.
Parce qu'on est encadré par la Sûreté du Québec. Alors, on part de Longueuil, on s'en va à Nicolette, puis de Nicolette à Lévis.
Oui, même
alors,
que vous dormez à Nicolette, à l'école de police.
À l'école de police. C'est un très bel endroit.
Oui.
Pour peu importe les préjugés qu'on peut avoir.
Oui, c'est un spécial.
C'est un très bel endroit pour dormir. Non, non, ils ont un bel. C'est là que les jeunes demeurent pour suivre leur cours.
Ouais.
Ils sont très. C'est très bien fait.
Et là, c'est un parcours de combien de kilomètres en
c'est
tout? 300,
c'est 290 en fait en tout. Là, c'est 145 à peu près chaque
jour. Fait en 2 jours.
Qu'on fait en 2 jours. Et on a tout le côté droit de la route. Parce que sur notre gauche, on a des motards.
Ah ouais!
Alors, on est des rois sur
des
la
gardes, quand même, vraiment.
Vraiment, vraiment.
Ça, c'est un feeling cher. Pareil.
Mais toi, qu'est-ce qui t'a inspiré ou emmené à participer à cette œuvre caritative-là?
OK. Moi, c'est la 10e année que je participe à des œuvres caritatives de ce genre-là. J'ai fait 5 ans le défi Enbridge pour la recherche contre le cancer. Puis au départ, c'était tout simplement que par mon beau-frère m'a dit que son voisin conduisait les vélos, il ramène les vélos de Lévis à Longueuil. Puis moi, je trouvais que ça avait l'air une activité le fun. Moi, j'ai personne dans mes familles proches là, qui ont eu une greffe.
C'est un altruisme désintéressé, qu'on pourrait dire.
Au départ. Mais une des membres, moi, j'ai parti l'équipe du pépère à vélo depuis 10 ans. C'est pour rire un peu de moi-même. Et une des membres de l'équipe a donné son rein à une de ses grandes amies. Alors là, on roule vraiment.
On a mis des visages sur ces histoires.
On roule vraiment pour quelqu'un, pour des histoires. Et cette année, d'ailleurs, on est même jumelés à des gens qui sont en attente de greffe. Alors, non, il y a vraiment...
Par jumelé, qu'est-ce que tu veux dire? Ces gens-là courent avec vous? Vous avez des visages.
On a un visage, on communique avec cette personne-là, etc.
Est-ce que c'est toujours possible d'encourager, de financer la campagne?
Oh, de financer, oui, ça c'est toujours... D'ailleurs, c'est la première année depuis que je le fais qu'on a dépassé l'objectif avant de faire l'événement.
Vous êtes rendu à 110% de l'objectif
initial.
Oui,
c'est ça.
Puis c'est comme le double par rapport à l'année passée, l'objectif que vous étiez fixé. Fait que c'est comme un succès qui grandit d'année en année.
Je pense que cette année, tout est le double. L'année passée, on était 64 cyclistes.
Ouais.
Cette année, on est plus de 150. On avait ramassé 115 000 $ l'année dernière. On est rendu à 220 000 $. Évidemment, il n'y a pas de limite aux dons. Alors, vous allez sur le site et puis vous pouvez donner sans problème. Pour ce qui est de participer, là, il est trop tard.
C'est fermé.
Oui, mais c'est la première fois qu'on dit « sold out ».
De toute façon, se lancer dans un périple de 290 km sans avoir...
C'est pas ça la veille du...
C'est
ça,
parce que toi, j'imagine que tu as fait un petit peu d'entraînement là, pour être prêt demain à monter ton vélo.
Oui, depuis 10 ans, je suis
rendu...
Je suis pas pépère pour rien, j'ai décidé que j'allais faire attention. Puis que
est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'année en année?
Tu veux dire personnellement?
Ouais.
Est-ce qu'il te rattrape la pratique ou bien l'âge?
Là, je me rattrape.
Plus que la pratique.
Mon odomètre sur mon vélo, il me dit que je suis moins capable de tenir des vitesses longtemps.
Mais néanmoins, c'est l'argent au bout du compte qui va aider à servir les familles qui est le plus important dans tout ça.
Oui. Puis il y a une chose que je voulais ajouter.
Absolument.
Il y a des gens qui sont des greffés qui vont participer demain. Alors, le fait d'avoir une greffe, là, la vie n'arrête pas.
Mm-hmm.
Ces
gens-là sont en rémission, ils se sont bien remis.
Tout à fait.
Ils fonctionnent normalement, optimalement.
Je suis chroniqueur en activité physique ici, puis je peux vous dire que même malade, on peut se trouver des activités physiques et arriver plus vite à la santé.
Wow. Ouais, même que il n'y a pas vraiment de meilleur moyen pour se mettre en forme que le vélo, là, pour la posture, l'équilibre, le cardio, c'est comme l'un des meilleurs exercices. C'est pour ça que les médecins le recommandent à toutes sortes de personnes, quel que soit leur handicap, leur condition, leur maladie. Moi, je connais quelqu'un qui a le Parkinson, qui a traversé le Canada en vélo. Là. Fait qu'effectivement, ça commence demain. On vous souhaite du beau temps, plus beau qu'aujourd'hui.
Oui, ça devrait être fantastique. Oui. Puis on a le vent dans le dos.
On a le vent dans le dos en plus. Ouais. Merci beaucoup, Yvan. Meilleure tes continuations. Puis on va mettre les liens sur notre page Canal M si jamais les gens veulent donner à la maison des greffés et leur défi vélo.
Merci beaucoup.
Bon succès.
Bye. On s'en va maintenant en musique. Et tout de suite après, on vous propose un petit reportage avec notre ami François, chroniqueur, qui va nous parler de...
Hyperhidrose. François Baruel qui parle avec Louis Garon au retour.
La la la. if she loves me or not. But the dread I know that love is his to get. With a little bit of this and a little bit of that, the lyrics goes on the attack. My tongue gets tied and that's no lie. I'm looking in your eyes.
Bonjour Louis.
À la chronique santé cette semaine avec François Baruel. François, vous nous parlez d'hyperhydrose. Je suis convaincu que ce terme pour plusieurs de nos auditeurs est un peu inconnu. Mais l'hyperhydrose, si je comprends bien, c'est un lien avec la transpiration.
Voilà, c'est une hypertranspiration.
Ah oui.
C'est une hypertranspiration qu'on appelle hyperhydrose à partir du moment où ça devient gênant. Alors, hyperhydrose, quand on a monté 3 étages en courant et qu'on commence à transpirer, surtout quand il fait 30 degrés, c'est normal. Mais par contre, avoir transpiré en permanence et être humide, avoir les mains moites ou avoir les aisselles qui coulent ou avoir le visage mouillé, et dès qu'il fait 25 degrés, ça par contre, c'est pas normal, c'est que c'est très désagréable et c'est insupportable.
Ouais,
et ça, c'est une hyperhidrose.
Et comment, moi je suis quand même, je dirais pas que je suis énormément, mais j'ai tendance à suer quand même assez rapidement, assez facilement, notamment quand je fais de l'effort physique, mais vous allez me dire que c'est parfaitement normal.
C'est même nécessaire.
Mais qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un... Comment on peut dire « je souffre d'hyperhydrose » Est-ce qu'il y a un niveau d'eau minimum que je dois sécréter pour souffrir d'hyperhydrose?
Pas vraiment. La vraie hyperhydrose, ou du moins on souffre d'hyperhydrose, c'est plus social qu'autre chose. Okay. Parce que ça gêne dans les rapports avec les autres. Parce qu'on a, justement, on serre la main ou on transpire, on sent la transpiration plus rapidement. Donc, c'est désagréable et on ne se sent pas à l'aise. C'est pour ça qu'on va consulter. Mais il y a des tas de gens qui ont une hyperhydrose modérée, c'est-à-dire une hyperhydrose qui n'est justement qu'au moment des efforts. Et ça, c'est tout à fait toléré, puisque je rappelle que la transpiration permet de se refroidir. Si on fait du vélo et qu'on transpire, ça permet justement de refroidir le corps. C'est très important, c'est nécessaire pour ça.
Oui.
C'est quand on est au repos et qu'on se met à transpirer. Non, c'est
ah, là, OK. Ce qui n'est pas mon cas, non, mais normalement, quand je transpire, c'est parce que bon, je fais un effort physique ou le stress également.
Le stress,
peut
exactement.
Être une source de transpiration.
Alors, ça, c'est l'hyperhydrose première. Hein, c'est l'hyperhydrose sans cause. C'est-à-dire, c'est juste une hyperactivité des glandes sudoripares. C'est des glandes qui transpirent. C'est uniquement ça. Mais par contre, il faut chercher les causes qui peuvent être pathologiques derrière. Ça peut être justement un diabète, ça peut être un hyperstress continu, ça peut être une insuffisance cardiaque, ça peut être Ça peut être principalement ça, en réalité. Mm-hmm. Et ça, c'est, il faut chercher les causes qui sont derrière. Donc. Mm-hmm. Mais la plupart du temps, c'est une cause primaire. Mm-hmm. C'est pas grave en soi, mais ça se soigne.
Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus propices à développer de l'hypertension ?
C'est familial.
Oui, c'est génétique.
C'est assez héréditaire.
OK.
C'est assez curieux comme chose.
Parce qu'on a souvent tendance, peut-être des gens qui sont en surpoids ou des gens, par exemple, qui vont, ou le corps,
tout
ou
le,
par exemple, le cœur et tout ça est grandement sollicité.
Voilà, oui, oui, tout à fait. Mais même quand il est, quand on fait un infarctus du myocarde, on sait, enfin, quand on est malade à ce point-là, on a des transpirations importantes.
Ouais.
Mais ça, c'est autre chose. C'est pas une hyperhidrose qui gêne dans la vie de tous les jours. C'est pas ça, en fait. Là, c'est une hyperhidrose due à une situation pathologique qui, elle, nécessite un traitement particulier de la pathologie d'origine.
Et quels sont les traitements pour essayer de combattre l'hyperhidrose?
Quand il s'agit d'une hyperhidrose secondaire, due à une maladie, justement, qu'on disait, insuffisance cardiaque, infarctus, ou obésité, ou etc., dans ce cas-là, eh bien, il faut traiter le... Dès qu'on traite la cause, l'hyperhidrose disparaît. Mm-hmm. Par contre, l'hyperhidrose primaire, il faut utiliser des produits à base d'aluminium, c'est-à-dire des gels hydroalcooliques qui contiennent de l'aluminium. Autrefois, on mettait de l'alun, mais maintenant, on met de l'aluminium sur la peau pour diminuer l'hyperhidrose, pour diminuer la sécrétion des glandes sudorifères.
On retrouve un peu d'aluminium dans les antisudorifiques.
Voilà, c'est ça, exactement.
Mais on dirait que c'est cancérigène à un certain moment.
L'aluminium, ce n'est pas cancérigène en soi. Okay. Oui, ça, c'est une grosse bataille avec les vaccins.
Oui, vous avez déjà entendu parler
ça,
de...
C'est... Mais en fait, non. C'est, de toute façon, ça ne reste que sur la peau et ça ne rentre pas à l'intérieur. Donc, mais ça, ce n'est pas cancérigène en soi. Mm-hmm. Ce qui peut entraîner, c'est le fait de bloquer les glandes sudorifères qui est gênant. C'est de se retrouver avec... une peau sèche, ça peut entraîner des rougeurs, ça peut entraîner des démangeaisons, ça peut entraîner presque une sorte d'eczéma, une forme d'eczéma. Ouais. Mais en soi, c'est pas dangereux. Le seul traitement, il y a plusieurs traitements comme ça.
Outre l'aluminium, qu'est-ce que
outre l'aluminium, outre ces sels ou ces gels hydroalcooliques et même des pommades, on peut utiliser le Botox qui bloque les glandes sudoripares au niveau du visage.
Ok. Mais c'est pas pour ça, normalement, c'est pas le premier...
Le Botox
c'est
bloque...
C'est plus pour étirer la peau...
C'est ça, normalement, c'est pour éviter d'avoir des rides, des rides d'expression, des rides sont dues à la contraction des muscles, notamment les rides entre les deux yeux, qui sont les rides du lion.
Vous et moi ne portons pas, de toute évidence, vous et moi n'avons pas été injectés de Botox.
Non.
Puisque nous avons préservé ces rides-là.
Absolument.
Et avec beaucoup de plaisir.
Mais en fait, il y a donc le Botox.
Ouais.
Et puis, il y a aussi des médicaments, des médicaments anticholinergiques en général.
Ouais.
Alors, le Botox bloque la transmission nerveuse vers les glandes sudoripares.
Ah.
Donc, elles ne transpirent plus.
OK. Et est-ce que ça peut être vu positivement d'avoir des glandes sudoripares qui sont... très efficace.
Bien sûr, puisque ça refroidit.
Ça refroidit le corps, mais également, au niveau de... Parce qu'on dit souvent que, outre de refroidir le corps, peut-être on dit ça, il y a l'expression, vous connaissez, faire chasser le méchant, hein, tu sais, les toxines et tout ça, qui sont également, qui quittent notre corps à travers ces glandes-là.
Les glandes sudoripares, oui, bien sûr, ça permet d'éliminer, un peu comme les reins, ça permet d'éliminer énormément de choses. Et ça permet de... Mais le problème des glandes sudoripares hyperactives, c'est qu'il y a aussi une déshydratation possible.
Okay.
Ça, il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui transpirent tellement, qui goûtent en permanence. Et là, il faut faire attention, il faut boire. Mm-hmm. On peut aller jusqu'à 4 litres par jour.
Okay. Hein. Mais je crois que les gens... On a beaucoup d'eau ici au Québec, mais j'ai comme l'impression au Canada... Mais j'ai quand même l'impression que les gens négligent un peu de boire beaucoup d'eau.
Très souvent, ils oublient de boire, ils n'ont pas besoin de boire, et puis boire de l'eau, c'est un peu plate.
Mmh, ouais.
Et puis, en vacances, quand il fait chaud...
Surtout l'été sur une terrasse.
Voilà, hein, c'est ça, c'est rarement un verre d'eau.
Et au niveau de l'hyperhidrose, au niveau du pourcentage de la population, ça touche combien de personnes?
Ça touche de 8 à 10% des gens.
OK, alors si vous souffrez d'hyperhidrose ou vous êtes atteint d'hyperhidrose...
Vous n'êtes pas
quand même, vous êtes, ou non, puis vous êtes peut-être une personne d'exception, parce que vous êtes seulement
exactement
dans le 10%. autre chose à rajouter sur l'hyperhidrose, François Baruel?
Il y a des traitements par voie générale, c'est-à-dire par la bouche, mais ces traitements-là marchent très très bien, mais ce sont des traitements qui entraînent sécheresse de la bouche, perte du goût momentané, constipation.
Est-ce qu'en période de canicule, là, ça peut être encore plus pénible pour les gens qui ont de l'hyperhidrose?
Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter de beaucoup d'eau, toute l'eau qu'il y a au Québec pour se baigner dans un lac, pour se réhydrater la peau et en même temps se laver plusieurs fois par jour.
Ouais, et si vous reconnaissez dans ce que vient de décrire notre chroniqueur François Baruel, ben, n'hésitez pas à aller prendre un bon verre d'eau. Merci beaucoup, François.
Vous écoutez Aime l'été.
Aime l'été avec Kevin et Emmanuel. Ça va très bien aujourd'hui. Puis dans un instant, Emmanuel va nous parler de flatulence. Et pour mettre la table, rien de moins qu'une chanson de fesses.
Je sais pas si vous avez remarqué, on dirait depuis quelques années, tout ce qu'on entend parler, c'est...
Y'en a des plates, y'en a des fermes, y'en a des slats.
Les fesses.
Y'en a des ronds, des petits carrés, y'en a pour s'asseoir, d'autres pour s'amuser.
Les fesses.
Y'en a des bosses, des déprimés, y'en a des hauts dans la société.
Les fesses.
Y'en a des belles à regarder, y'en a qui sont à éviter. Mais qu'on aime ça, qu'on aime pas ça, s'il n'y avait pas, on serait pas là.
Les fesses.
Y'en a des étroites, y'en a des larges, y'en a même des qui sont en marge.
Les fesses.
Y'en a qu'on aime, y'en a qu'on tape, y'en a qui brûlent toutes les étapes.
Les fesses.
Y'en a qui voudraient en avoir plus, y'en a qui partent pour appuyer ses jeux.
Les fesses. Y'en a des belles à regarder, y'en a qui sont à éviter. Mais qu'on aime ça, qu'on aime pas ça, s'il n'y avait pas, on serait pas là. Les fesses.
Y'en a des mauves, y'en a des roses, y'a qu'à les voir, ça fait quelque chose.
Les fesses.
Y'en a des deux, y'en a des mâles, y'en a beaucoup de petites
papas. Les fesses.
Y'en a vraiment de toutes les sortes, y'en a même une graine de mal gros.
Les fesses.
Y'en a qui
sont à éviter, mais qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça, généralement on se met à la défense.
Brillant hommage à oui. Yvon Deschamps, tiré de l'album Des Chansons, à le collectif de Marie-Nicole Lemieux, François Pérusse, André Sauvé, Pierre Verville qui ont chanté Fesses pour mettre la table à Emmanuel.
On met la table, on met pas nos fesses à la table, on met la table pour parler de fesses, pour parler plus précisément de flatulence. Et tu sais quoi? On va en parler très sérieusement et très scientifiquement. Enfin, on va parler des bienfaits de péter dans la vie. Et j'ai choisi cette co-animation avec toi, Kevin, parce que pour ceux qui se joignent à nous, à ce duo pour la première fois, on a ouvert notre premier vendredi. On est ensemble tous les vendredis de 11h30 à 13h à MLT. Ouais. Notre premier vendredi, on a ouvert ça en grand en parlant d'urine.
Ouais.
Et j'ai dit, qui d'autre que Kevin à mes côtés pour parler de flatulence? Donc, t'es ma muse.
Ta muse sans tabou.
J'espère que tu vas te coucher heureux avec le cœur heureux.
J'ai pas de misère à le croire, par contre, parce que je sais pas, bon, je connais pas les bienfaits à péter, mais je suis certain qu'il y a des méfaits à ne pas péter et à revenir.
Il y a les deux.
C'est ça, effectivement.
Il y a les deux. Je suis tombée inopinément sur un article du powerofpositive.com, qui est un site super bien fait, qui s'occupe beaucoup de notre bien-être, on se comprend, et qui nous rappelle à quel point la société est bonne pour dicter ce qui est un comportement jugé acceptable et ce qui est jugé comme inacceptable chez nos pères. Siroter, péter, c'est des comportements après lesquels on doit au minimum s'excuser. Faut même s'excuser après avoir bâillé, éternué et même quand notre ventre gargouille, ce qui, moi, personnellement, me dépasse largement. Tu sais, pas comme si tu contrôlais ton gargouillement de ventre. T'as faim, c'est pas grave. Tu sais, on se comprend. Mais ça peut aller loin, la pression sociale. Là,
oui.
T'sais. Et pourtant, quand on y pense, en Chine, c'est le contraire. Roter à table, c'est un indice clair d'appréciation du repas qu'on vient d'engloutir. Donc, tout est très relatif et actuellement, à force de programmation sociale et sous le socle du supposé savoir-vivre, non seulement on se crée des malaises en essayant de retenir nos gaz de toutes parts, pire est la honte encore quand ils sortent malgré nous, mais aussi on se prive de grands bien fait. Donc, en espérant que cette chronique enlève des tabous et nous ramène à ce qui est totalement naturel, mais plus que ça, sain, voire bénéfique et positif, voici les 7 raisons pour lesquelles péter est bon pour nous. Tout d'abord, c'est bon pour le colon. Retenir n'importe quelle réaction physique, naturelle, c'est nécessairement pas bon pour notre santé en général, que ce soit l'urine, des ballonnements ou des gaz. S'en tenir pour aller à faire pipi, là, ça fait de la rétention dans nos reins, ça force nos organes, c'est pas fait pour ça. Et qui peut lever la main ici en disant qu'il s'est jamais retenu en public de péter? Sincèrement, sauf les enfants de moins de 4 ans avec aucune inhibition sociale, personne, je crois, personne peut lever la main au moins une fois, genre en conférence.
Mettons. Non, effectivement. Toujours avec succès, là, je sais pas, mais essayez.
Ça, c'est une très belle nuance, mais effectivement. Donc, non seulement c'est pas bon, mais ça peut être aussi dangereux parce que ça crée des inconforts intestinaux et abdominaux, et là, je te parle pas juste, donc c'est désagréable. On parle de la création d'abcès, de péritonite, de diverticulite, donc infection et inflammation, on veut pas ça. Ça augmente les risques de constipation. C'est également reconnu pour avoir des méfaits sur notre système immunitaire, littéralement, parce que dans nos pets, il y a plusieurs bactéries indésirables du microbiote intestinal. Il y en a des bonnes bactéries, mais à un moment donné, il y en a qu'il faut qu'ils quittent le navire.
Ouais.
Et Et donc, on empêche cette évacuation naturelle et souhaitable et nécessaire là, en ne faisant pas aller nos flatulences telles qu'elles se doivent. Et finalement, on va finir par sortir, comme tu l'as très bien dit, un pet incontrôlable. Donc, notre dignité, c'est sans issue pour elle.
Ouais.
On va se le dire.
À moins que tu puisses blâmer sur quelqu'un d'autre.
À moins que.
Moi c'est mon joker que j'ai toujours dans ma poche arrière. Depuis qu'on a un chien à la maison, moi, ça me sauve bien de la gêne. Ah non, c'est pas moi, chérie.
Oui, c'est ça.
C'est Maya.
On salue Maya, pauvre petit cœur. Oui. Hein. Mais je suis sûre qu'elle t'aime inconditionnellement, oui, et qu'elle accepte.
Ça la dérange pas.
Deuxième bienfait. Ça aide à la création de ballonnements et du gonflement de notre ventre. Donc, non seulement c'est inconfortable, mais ça peut aller jusqu'à être douloureux. Et profitons-en, pendant qu'on parle de ballonnement, si c'est un problème qu'on rencontre, allons-y vers des solutions. Si on souffre de ce ballonnement ou de ces noms scientifiques, soit l'aérogastrie pour les gonflements de l'estomac, l'aéroïlie pour l'intestin grêle ou l'aérocolie pardon, pour le gros côlon. Et pour l'éviter le plus possible, au-delà de péter, on peut également manger plus lentement, mastiquer davantage, prendre de moins grosses bouchées. Évitez d'avoir toujours une gomme ou des bonbons en bouche entre les repas, notamment moi-même ici au studio, j'ai tout le temps la main dans le plat de bonbons, il faut que je fasse attention quand
même. Et ça, c'est mauvais?
Ben, il paraît.
Pour la digestion.
J'ai pas fait un autre aparté, oui, parce que moi, des fois, il faut que j'arrête.
Oui, c'est ça, il faut se cibler. Là.
Les onglets là, dans mon cerveau, mais celui-là, je l'ai pas ouvert, cet onglet-là. Et privilégier les protéines plutôt que les hydrates de carbone dans l'alimentation. C'est quoi les hydrates de carbone? C'est littéralement pain, pâte, blé, orge, maïs, gluten, on va se le dire. Et surprenamment, trop de fruits et de crudités peuvent ne pas faire l'affaire. Donc, la modération est le mot d'ordre, surtout en cette saison du melon d'eau. Troisième bienfait de laisser aller nos flatulences avec allégresse. Et j'étais la première surprise. Hein. L'odeur du pet serait bonne pour notre santé.
Pour la nôtre ou celle des convives?
C'est ça.
Okay.
Il y a certaines personnes qui vont regarder dans leur Kleenex quand elles se mouchent. Il y en a d'autres qui vont sentir leur pet jusque sous la couverte. Ne te méprends pas, Kevin. Je te demanderai pas tes habitudes quant à cet aspect routinier de ta vie.
Je ne me prononcerai pas.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui le font auraient un avantage à le faire parce qu'un pet odorant est bon, non seulement pour soi, mais pour tous ceux qui le sentent autour également. Ce serait donc maintenant et officiellement un comportement altruiste que de péter en public.
Mais c'est vraiment pour le système immunitaire.
Voici pourquoi. Ouais. Nos flatulences contiennent du sulfure d'hydrogène. La fameuse odeur d'œuf pourri dans certaines municipalités, dans le lavabo, l'eau du robinet a, là, c'est à cause de cette composante-là. Donc, le sulfure d'hydrogène, au-delà d'être aversif sur le plan de l'odeur, c'est nauséabond, c'est surtout reconnu pour contrecarrer l'apparition de maladies futures, en plus de prévenir les dommages et la mort cellulaire, et même, ça pourrait prévenir d'éventuelles attaques cardiaques ou des AVC. Donc, on est là, mais tu sais, bon, c'est nommé, OK, c'est dit.
C'est à retenir pour le prochain party de famille.
Péter est également synonyme d'avoir les deux, un ventre et une composition bactérienne saine, donc être en santé. Donc oui, péter, c'est synonyme d'être en santé, du moins sur le plan de l'abdomen et ses composantes. Tantôt, on parlait d'évacuer les bactéries qu'on considère indésirables via les flatulences. Ici, on parle que manger de la nourriture qui crée des gaz, je pense aux choux, aux pois chiches, ça amène aux microbes dans notre ventre les nutriments nécessaires pour leur survie. On en a besoin de ces microbes-là. Ils créent, entre autres, les microbes, une barrière naturelle qu'on appelle muqueuse et qui nous protège contre ce qui est pathogène et qui veut entrer et qu'il ne faut pas qu'il rentre. Donc, mangeons du kale et pétons, ça aide à notre microbiote. Et c'est super important. Cinquième bienfait. Se permettre de péter peut aider également dans l'atteinte d'une diète équilibrée. Comment? J'entends ta question. T'es tellement dubitatif. Comment? Et les gaz que l'on permet de passer peuvent nous indiquer de quelle nourriture notre corps, notre système a besoin ou a en trop. Et c'est très individuel, ça, les diètes. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous? Ça peut nous indiquer quelle nourriture on mange en trop grande quantité, par exemple, ou pas assez. Par exemple, quand on pète pas assez, on peut manquer de fibres. c'est un indice qu'on a une lacune dans notre alimentation. Okay. Le contraire est également vrai. Une trop grande abondance en PET, nauséabond, pourrait nous dire qu'on a abusé de quelque chose. C'est le cas, entre autres, de la viande rouge.
C'est comme un baromètre.
Donc, ça nous permet de rester équilibré. C'est une façon pour notre corps de nous parler. Littéralement, nos PET, c'est du feedback en soi. OK? Sincèrement.
Ouais.
Sixième bienfait sur 7, on achève, mais j'espère que
ben
vous
moi,
êtes déjà parti.
Là.
Ouais, c'est ça.
Si tu sens une petite odeur étonnante dans le studio,
je vais te féliciter, je pense. Je vais t'encourager dans ton nouveau comportement. Ça nous sert également de signe d'alarme quant à notre état de santé. C'est un des bénéfices les plus importants de la liste. Non seulement il indique un état de santé, mais les caractéristiques de nos flatulences. Fréquence, odeur, grosseur. Bruit. J'ai ajouté bruit, mais qui sait. Peut aussi être un outil prédictif de notre santé. Ça peut prédire des problèmes de santé et être des signes précurseurs à ne pas ignorer, entre autres dans le dépistage allant des intolérances alimentaires au cancer du côlon en passant par le syndrome du côlon irritable, les maladies cœliaques, et on en passe. Les caractéristiques de PET dit pathologiques, donc inquiétants, sont les suivantes. Une odeur extrême, ça sent la mort, souvent on dit ça.
Ouais.
De la douleur quand le gaz passe à travers l'intestin, l'ampoule ou le duodénum, et le sphincter, bien sûr, et une fréquence trop grande. Il y a un niveau, à un moment donné, tu fais comme je pense que là, c'est pas normal.
Fait que si trop grande intensité ou trop fréquent, là, il y a lieu de s'inquiéter.
Effectivement. Et finalement, le dernier bénéfice à péter, simplement, se reflète par le grand soulagement que ça implique péter. C'est pas le plus scientifique, mais on peut pas le nier.
C'est vrai.
Que faire pour minimiser quand même les pets en public si jamais on souhaite? Ben, être un petit peu prévoyant. Faire attention à ce qu'on apporte comme lunch à job,
ouais.
Pas faire par exprès, se tasser dans un endroit, si on sent que ça s'en vient, on a un petit peu mal au ventre, pas aller dans l'ascenseur tout de suite, on peut attendre un petit peu. Sinon, moi, je suggère de travailler sur notre ego, notre orgueil, changer les mœurs et les coutumes et ramener le pet acceptable, voire à la mode. Voilà.
À force de tirer sur le fil,
on n'en voyait plus trop la fin.
Mais une fin pleine de style,
une fin qui ne demande rien.
Nous la cherchâmes corps et âme,
la cherchâmes corps et âme.
Nous nous perdîmes à l'imparfait. On rembobine le fil du temps,
on se dérouge qu'au firmament.
On embobine les étoiles
et on s'abîme sur la toile.
Au fond la fin vient en chantant,
au fond la fin vient en chantant.
Au fond la fin ne nous dit rien. Mémoire
est aussi fort de toi, moi.
Qu'un bout de bras en désespoir.
Qui toque à ta porte quand tout s'en va.
Nous réfléchîmes à deux fois.
Nous réfléchîmes à deux fois.
Nous retrouvâmes un fil d'antan. On aimerait quand même voir la fin.
Je suis qui tire sur la mémoire.
Pour tous les morts, se remémore.
L'illusion vaine de nos destins.
Nous écrivîmes ces derniers mots.
Nous écrivîmes ces derniers mots.
Et nous perdîmes le fil du temps. À continuer, une illusion plus que parfaite. Au fond, les mots viennent en chantant. Au fond, les mots ne disent rien. Nous nous bornâmes à continuer,
une illusion plus que parfaite.
Au fond, les mots viennent en chantant.
Au fond, les mots ne disent rien.
Nous décidâmes à l'imparfaite.
Nous décidâmes à l'imparfaite.
D'arrêter là, cette sornette.
C'est Boulevard Désert qui nous chantait Au fil des mots, pièces que l'on peut retrouver sur l'album Paris Buenos Aires.
Et maintenant, je suis bien heureux d'aller rejoindre au bout du fil Simon Boulris, auteur que vous connaissez peut-être que vous le lisez dans la presse, puisqu'il est maintenant chroniqueur, il est aussi danseur, bref, multiples talents. Simon Boulris est avec nous pour nous parler de la 4e édition de l'événement Au fil de l'eau, au fil des mots. Salut Simon.
Bonjour.
On m'a dit que tu étais déjà sur la route en ce moment. J'imagine que tu as un été bien chargé devant toi et qui est déjà bien entamé.
Oui, en fait, là, je suis à Ankoui présentement. Je suis en direction pour Carleton-sur-Mer. J'ai une pièce qui va être présentée à partir de la semaine prochaine. Et là, je me rends à la conférence de presse présentement.
Une pièce dans laquelle tu joues, une pièce que tu as écrite?
Une pièce que j'ai écrite qui s'appelle « Ta maison brûle », une comédie un peu triste. Et la metteur en scène, c'est ma cousine Edith Patnaud. Donc, c'est un projet familial.
Un projet de famille.
Voilà. Et c'est une pièce qui parle de la famille, justement. Donc, je suis assez heureux que ce soit ma cousine qui fasse la mise en scène.
À Carleton-sur-Mer, tu vas aussi te promener un petit peu partout au Québec, notamment sur les belles rives de ce que le Saint-Laurent et les autres différents lacs et rives ont à offrir de mieux pour la 4e édition d'un événement de rencontre littéraire que je ne connaissais pas. Pour toi, ce sera le 29 juillet prochain, mais ça s'étend jusqu'au mois d'août, c'est tout l'été. Est-ce que tu peux nous le décrire en quelques mots, au fil de l'eau, au fil des mots, en quoi ça consiste?
En fait, ce sont des rencontres estivales, donc c'est dans plusieurs villes. Moi, je suis effectivement à Repentigny, et donc ce sont des rencontres avec le public, donc on répond aux questions. C'est une forme de conférence où on présente un peu notre parcours, mais c'est surtout l'occasion de rencontrer ses lecteurs, de discuter de littérature, de lecture et d'écriture, donc et c'est de façon très bucolique.
Oui.
Voilà.
Avec un beau paysage en arrière-scène, c'est un petit peu comme une espèce de format talk show, mais pas télévisé, en fait, là, parce qu'il y a un animateur qui va te poser des questions, puis il y a une interaction avec la foule en même temps.
Absolument. Et moi, j'adore ça. D'ailleurs, je viens d'en faire une à Rimouski hier, ce genre d'événement-là. J'aime beaucoup ça, où il y a un animateur qui dirige, mais il y a aussi le public qui peut participer à tout moment. Ça me plaît beaucoup, que ce soit une rencontre collective. Il n'y a pas un écran entre l'animateur et l'auteur et le public. Donc, c'est vraiment une rencontre collective.
Et ça rend le tout plus charnel. Toi, Simon, c'est quoi ta relation avec l'eau?
Ah, écoute, là, je suis entouré d'eau présentement, donc Rimouski, là, en route vers la Gaspésie. Je trouve ça hyper apaisant, mais je suis pas de nature contemplative, mais j'aime ça. C'est comme si inconsciemment, ça me détendait sans être vraiment la tête portée, tournée vers l'eau. C'est comme si inconsciemment, ça apaise toujours, ça, avoir un étendu à proximité. Hein. C'est comme ça donne, paradoxalement, un ancrage. Ça nous enracine à avoir de l'eau tout près, je crois.
Toi, tu es originaire de Montréal, je me trompe?
Pas très loin. Une petite ville en Montérégie, ça s'appelle Saint-Rémy. Okay. Donc, j'étais un Saint-Rémois. Les habitants de Saint-Rémy sont des Saint-Rémois. Et donc, j'ai grandi là-bas, une petite ville qui est peut-être à une demi-heure de Montréal, mais j'y allais presque jamais. C'est comme la grande ville, très, très loin. Donc, j'ai vraiment grandi en campagne pour moi. C'est vraiment la campagne. Je cueille des fraises et des framboises tout l'été. Donc, je suis pas tout à fait Montréalais. Je suis devenu, là, mais à la base, pas du tout.
Et là, s'il fait beau à Repentigny, donc ce sera à l'extérieur, on vous le souhaite, mais sinon, il y a un plan en cas d'intempérie. Qu'est-ce que tu espères qui va être emmené comme sujet lors de cette discussion? Qu'est-ce que tu aimerais dire, en fait, aux gens qui vont se déplacer pour venir te parler le 29 juillet prochain?
Moi, un sujet qui me passionne, c'est toujours parler de l'enfance. Comment l'enfance peut mettre en lumière ce qui s'en vient dans la vie de quelqu'un. Et j'ai une enfance très solitaire où j'avais très peu d'amis et l'art m'a fait beaucoup de bien. Alors, j'aime toujours parler d'émancipation par l'art, aborder la question de la littérature notamment, comment les livres peuvent nous sauver, comment aussi l'art en général, parce que, comme tu l'as bien dit, j'aime beaucoup danser, j'aime chanter, même si je chante pas très bien, mais j'adore chanter. Je trouve que ça fait du bien. Donc, je parle pas juste d'excellence, je parle vraiment juste de s'émanciper par l'art en général, qui est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Et je parle aussi des œuvres jeunesse, parce que j'ai fait autant d'œuvres, des romans, du théâtre et de la poésie pour adultes, mais aussi pour les ados et aussi pour les enfants. Et donc, j'aime ça, rameuter un public assez vaste pour parler de mille thématiques, de mille sujets, mais d'avoir un lectorat très très inclusif. Donc, ça, j'aime ça, qu'il y ait autant, et ça, c'est un bon exemple, hier à Rimouski, il y avait autant des tout-petits-enfants que des adolescents et que des adultes, et ça me plaît avoir tous ces gens-là devant moi.
Donc, si tu avais une demande spéciale à faire aux habitants de Repentigny, c'est les gens qui vont venir vous voir, emmener vos enfants, vos petits cousins, vos petites cousines pour vous accompagner.
Absolument.
Dans la discussion.
Oui, une rencontre en famille, je trouve ça le fun. Tu sais, c'est pas juste les adultes, c'est pas juste les enfants. Tout le monde peut être interpellé par la littérature.
Il y a en tout 4300 participants qui ont participé, qui ont pris part, j'aimerais plutôt dire, pour ne pas me répéter, lors des trois étés précédents.
On parle à un auteur, augmente ton vocabulaire
c'est
de
ça,
niveau,
je vais mettre mon lors des trois éditions précédentes, est-ce que toi, Simon, tu avais déjà participé à une des trois précédentes éditions?
Non, c'est ma première fois qu'on m'invite. Alors, très heureux de... Mais je suis allé quand même souvent repentir. D'ailleurs, je suis allé deux fois à la bibliothèque cette année pour donner des conférences ou des rencontres, soit avec des ados, soit avec des enfants. Mais là, de façon plus familiale, c'est ma première fois à repentir. Donc, très heureux de me retrouver, surtout l'été. Hein, un événement extérieur, ça, pour moi, c'est une plus-value. Donc, bien heureux de ça.
Il y aura beaucoup d'autres personnes qui vont participer. Comme je le disais, ça dure tout l'été. Vous pouvez vous rendre sur au fil de l'eau, au fil des mots.ca. Mais pour vous donner une petite idée, il y a Jean-Marie Lapointe, Biz, Emma Bossé, Jasmin Roy, Marie Laberge et bien sûr, évidemment. Oui, Marie Laberge que tu connais bien, Simon, qui seront présents éparpillés un petit peu partout dans la MRC. Merci beaucoup, Simon. On te souhaite beaucoup de succès à toi et à ta cousine pour cette pièce de théâtre. Ça sera pas seulement à Carleton-sur-Mer, ça va se déplacer un petit peu partout.
On espère. La création, c'est un mois ici, puis on espère qu'il y aura une tournée par la suite.
Donc, on surveille Ta maison brûle par Simon Boulris. Ça peut être drôle. C'est drôle, triste. C'est ce qu'on dit aux gens.
C'est drôle et un peu triste. Voilà.
Super. Et ça sera pas triste d'aller te rencontrer à Repentigny le 29 juillet prochain. Merci, Simon.
Merci beaucoup à vous.
Bonne route.
Bonne tournée. Au revoir.
Stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I'll look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see.
une chanson d'un duo improbable, improbable non pas parce qu'ils se ressemblent pas ou parce qu'ils s'aiment pas, simplement parce que une est décédée, l'autre est toujours bien vivant. C'était la chanson Higher Love de Whitney Houston en collaboration avec Kygo. Kygo qui était au Festival d'été de Québec hier soir, justement, et je crois que ça a été extrêmement apprécié. J'ai pas relu tout ce qui s'est toutes les critiques ou tout ce qui s'est dit effectivement, mais j'avais plusieurs amis qui étaient présents hier sur les plaines d'Abraham.
Ils ont apprécié.
Absolument. Chanson qui est sortie en 90, juste avant l'album très 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 connu The Bodyguard, qui lui est sorti en 92. C'était sur l'album I'm Your Baby Tonight with Whitney Houston, qui fait ce duo avec Kygo qui l'a repris d'une manière exceptionnelle. Ça a sorti ce duo-là le 28 juin dernier. Déjà 3 millions de clics sur YouTube, sur le site officiel, la chaîne officielle de Kygo. Et Whitney Houston, c'est mon idole de tous les temps, avec Michael Jackson et Mariah Carey, qui elle sera ce soir au Festival d'été de Québec. Et mon chat s'appelle Whitney Houston, et c'est vrai. Et son documentaire Whitney est toujours disponible sur Netflix. J'ai pleuré après 17 secondes parce qu'il y a des voix isolées de I Wanna Dance With Somebody au début, et ça m'a suffi. Je vous invite à aller l'écouter et réécouter en boucle ce duo avec Kygo, qui est Higher Love. Voilà.
Vous écoutez Aime l'été.
Effectivement, Aime l'été qui se poursuit avec Kevin Breton. Je ne suis pas Kevin Breton, Emmanuel Robitaille. Au micro et à venir dans l'émission, Kevin, tu vas t'entretenir avec Sylvie Lacerte, qui est directrice artistique du 37e Symposium international d'art contemporain qui aura lieu à Baie-Saint-Paul à la fin du mois.
Et... Il sera question d'art et d'architecture.
Hey, quand même. Et on va avoir également droit à un topo que je vous ai préparé avec Louis Garon un peu plus tôt. Cette semaine, on parle de psychosomatisation, ou plutôt d'aux signes que notre corps peut nous envoyer et qu'on ne peut pas ignorer. Et avant de se rendre à ce topo-là, quelle belle chanson de The Struts qui nous dit « Body Talks ».
Your eyes follow like a spotlight, two eyes like the sun. Go ahead, keep your distance from me, soon you're gonna come. When you flick your hair like you don't care, and you're asking where I'm from. That game that you're running, baby, you've already won. I need to know. Tonight, you can be cool, you can be shy, say what you want, say what you like, 'cause ooh, your body talks, your body talks, ooh, ooh, your body talks. You can pretend you don't wanna know, but I mean, just turn some of your head to your toes. Yeah, you don't need to say a word, 'cause ooh, ooh, your body talks.
Bonjour Louis, comment ça va?
Oui, ça va très bien. Là, vous parlez des signes que notre corps nous parle et que l'on ne peut malheureusement pas ignorer.
Ben, vous pouvez l'ignorer si ça vous tente.
Non, moi je suis toujours à l'écoute de mon corps. Il faut écouter son corps.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la psychosomatisation à la maison, toi, Louis?
Ouais. Oui, déjà entendu, oui, j'ai déjà entendu du phénomène. En fait, quand on dit que c'est psychosomatique, c'est pas nécessairement physique, c'est plus dans la tête que ça se passe.
Ça peut être dans la tête, mais c'est surtout, en fait, c'est qu'il y a un consensus.
Oui.
Dans le monde spirituel ou dans la médecine alternative. Je parle souvent de la médecine traditionnelle chinoise. Moi, je suis très ouverte à plusieurs approches à travers le monde qui suggèrent que oui, le corps peut traduire ou traduit des problèmes émotionnels divers, surtout des émotions qui sont trop fortes ou qui sont encore déniées et qui se logent dans notre corps. Notre corps, finalement, il nous parlerait de ce qui est un peu moins visible. Donc, on parle peut-être des psychologiquement ou émotionnellement.
Ouais.
Est-ce que c'est une croyance qui te parle?
Je dois dire que je suis assez quand même pragmatique. Hein. Je ne suis pas nécessairement dans l'ésotérisme et tout ça comme ça, mais il ne faut quand même pas se... Il faut être ouvert quand même, parce qu'une des chroniques précédentes va parler de l'ouverture.
On a commencé la saison en parlant de sagesse.
Alors, j'essaie d'être plus sage, d'être plus ouvert, moins étroit d'esprit et plus à l'écoute également de mon corps. Alors non, je ne peux pas, malheureusement, je ne peux pas ignorer ce phénomène.
Mais écoute, qu'on y croit ou non,
ouais.
Il y a suffisamment d'approches et de gens qui s'y sont intéressés pour qu'on ait décelé des parties du corps très précises en lien avec des émotions tout aussi spécifiques. Et c'est le cas de Susan Babel, une psychologue spécialiste dans le traitement de la dépression qui en a fait une théorie qui implique bien sûr des recommandations. Voici maintenant 12 parties de notre corps, ce qu'ils peuvent signifier en termes de problématiques moins visibles et comment on peut s'aider un petit peu là-dessus.
Est-ce qu'il y a des parties de notre corps qui nous parlent plus que d'autres?
Je pense que tout nous parle.
Oui.
Je ne m'arrêterai pas, mais il y en a 12 principaux qu'on va soulever ici.
Okay.
Mais moi, je vous invite et je m'invite à aller lire, à se questionner, à aller voir encore plus loin. Qui sait, tu sais?
Il faut explorer.
La tête.
Oui.
Les migraines, c'est un fléau indéniable. Mm-hmm. Plusieurs gens en sont atteints et il semble que ce soit relié à une surcharge mentale. La tendance à vouloir tout surmonter, à tout gérer en même temps avec les inquiétudes du présent et du futur. Et tout ça, bien sûr, dans une presse incessante. Mmh. Ça donne un petit peu mal à la tête. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben, on parlait précédemment peut-être du lâcher-prise, être un peu moins préoccupé, laisser les choses aller, essayer d'en moins prendre sur soi-même, puis de relativiser un peu les choses. Hein?
Se reposer.
Oui. En plus, se reposer, ce qui serait le plus évident comme réponse.
Se reposer sans culpabilité, hein, c'est le travail d'une vie. Mais prendre du temps pour soi chaque jour. Le calme, le repos et la sérénité, ici, sont des mots d'ordre. Du silence pendant 10 minutes, quelques reprises en journée, ça risque de diminuer nos migraines.
Ouais.
Le cou nous parle également.
Oui.
Semble que le cou soit relié au pardon et à la rancœur. Quand on ne peut pas pardonner à quelqu'un ou à soi-même, il y a des douleurs au cou qui vont persister. Ça nous parle de rancune qu'on ne peut pas laisser râler, des choses qu'on ne peut pas accepter, des choses dont on s'en veut, etc. Donc, ça serait intéressant si on pouvait diminuer nos exigences envers soi, envers les autres, être un peu plus indulgent et surtout penser à des choses qui nous font du bien, qu'on aime et qui sont positives chez soi plutôt que, et chez les autres plutôt que de ressasser tout ce qui nous a fait mal, ce qui nous a rendu en colère, ça risque de nous détendre un petit peu le cou.
Je dois dire que la tête me parle moins. J'ai pas beaucoup de migraines, mais l'histoire du cou, oui.
Tu t'en veux, Louis?
Je sais pas si je m'en veux, mais à une certaine période, je m'en suis voulu.
Ben,
plus maintenant, le cou me fait plus mal.
Mais tu vois...
J'ai libéré quelque chose qui était à l'intérieur.
Ben, c'est génial.
Trop-plein.
Oui. C'est génial et je t'encourage. C'est travail de vie, ça.
Ben, je crois que c'est peut-être tes chroniques qui m'aident aussi.
Ah, qui sait? Il n'y a rien qui arrive à rien dans la vie. Les épaules.
Oui.
Ça, c'est simple, en avoir trop ses épaules, me semble que ça n'en parle. Ça parle tout seul. C'est une surcharge de responsabilité, une charge émotionnelle trop élevée, trop de choses à faire, trop de gens à soutenir. Faut pas hésiter à partager avec nos amis nos soucis, parler, ventiler, pas tout faire tout seul. Ouais. Déléguer.
Oui.
Déléguer.
Mais ça, c'est, comme tu dis, c'est le travail d'une vie, hein, les gens qui veulent pas déléguer.
Tout est le travail d'une vie.
Qui ne veulent pas faire confiance aux autres. Mais moi, on m'a dit, pour avoir suivi des cours, souvent des cours de gestion et des choses, c'est l'importance de déléguer parce que si on garde tout pour soi, et on n'apprend pas à faire confiance aux autres, c'est vraiment courir à sa perte.
Et on leur rend pas service. Non. Tout le monde aimerait ça se faire confiance aussi,
ouais,
à un moment donné.
On se rend pas service à nous, premièrement.
La partie supérieure du dos. Le dos se sépare en deux parties. La partie supérieure du dos, on ressent un manque de soutien émotionnel dans notre vie. L'absence d'amis proches. Inconsciemment, on pense que personne nous aime et que personne nous valorise. Mmh. Donc, s'ouvrir aux sentiments, s'ouvrir au monde, aller chercher le support dont on a besoin et faire du sport parce que nécessairement, il y a quelque chose qui est physique et qu'on doit retrouver un espèce de tonus également. On a des amis, mais on sent qu'ils ne sont pas là.
Moi, le sport a toujours été très, très bénéfique pour moi lorsqu'il y a une période de tension, une période de stress, de faire du sport, de générer plus d'endorphines et tout chose comme ça, c'est toujours très profitable.
Ça ne peut pas nuire.
Ça peut, comme on dit, chasser le méchant. C'est quoi l'expression? C'est
faire sortir le méchant.
Bien, voilà.
La partie inférieure du dos, quant à elle, serait reliée directement à l'argent. Des soucis d'argent, des inquiétudes réelles ou non, mais la peur d'en manquer, la peur d'en perdre. Le truc, c'est de gagner de l'argent en faisant des choses qu'on aime. Mmh. C'est un truc pour séparer les émotions négatives avec l'argent et faire des choses qui nous font plaisir gratuitement. Mmh. Donc, on va vraiment séparer émotions et argent et ça risque d'être un petit peu moins dommageable pour le bas de notre dos. Les coudes, maintenant. Coudes et hanches se ressemblent beaucoup. On parle, les coudes, on parle d'un entêtement. Être têtu comme une mule, de l'inflexibilité, s'opposer au changement. Donc, être moins résistant, pratiquer l'acceptation, pas lutter, pas se battre. Toutes les articulations, ça bouge. Donc, tout ce qui est changement, tout ce qui doit bouger, on reste flexible. Même chose pour les hanches, on parle encore de changement. Mais là, on parle plutôt d'un désir de prévisibilité et de contrôle. Donc, suivre le flot. Lâcher prise, t'en as parlé tout à l'heure. Là, ça s'applique.
Moi, j'y crois au lâcher prise. C'est comme mon mantra, lâcher prise.
Hey, moi, j'essaye, mon Dieu, mais je ne sais pas à qui.
Mais vous voyez que vous quand même faites des efforts. Est-ce que je peux vous aider, moi, cette manière? Lâcher prise, Emmanuel, c'est bénéfique.
Exactement.
J'en suis la preuve vivante.
Les mains maintenant. Tantôt, on voyait qu'on avait des amis, mais qu'on ne ressentait pas leur support. Ici, c'est qu'on a besoin d'amis. On sent que notre cercle est limité. Il est fermé. On ne peut pas rejoindre les autres, sortir, s'ouvrir aux autres, parce que n'importe qui peut devenir notre ami et on ne sait pas quel genre de lien on peut créer.
Mais on dirait qu'avec le temps, c'est plus difficile de se faire des amis.
Pourquoi tu t'expliques ça?
Ben parce que c'est faire confiance aux autres. On va souvent faire confiance à des amis de longue date qui ont prouvé leur loyauté, leur fidélité.
Ou au contraire, on s'est fait peut-être trahir trop
souvent.
Ou on
s'est fait trahir un peu les deux. Et puis, avec le temps, de se faire de nouveaux amis, ça peut être plus compliqué. On peut toujours avoir des connaissances, mais de la vraie intimité, de l'amitié, c'est un peu plus compliqué.
Effectivement, mais c'est possible.
C'est possible. Faut pas abandonner.
Il nous en reste trois.
Oui.
Le genou, on parle beaucoup d'un ego très fort. C'est le « je », « nous ». Tu comprends dans la sémantique?
Oui, là...
Comme dans la relation entre soi et l'autre qui est déficiente parce qu'on pense trop à soi et qu'on croit que tout tourne autour de soi. Être plus attentif aux autres, bienveillant, soutenant, à l'écoute, se tourner vers l'autre, créer une meilleure relation entre « je » et « nous » pourrait nous aider sur le plan des genoux. Le tibia, quant à lui, nous parle de jalousie. Surtout celle qui est irrationnelle. Les soucis amoureux vont nous faire souffrir le tibia. Écoute...
Ben pour l'instant, ça va très bien, mes tibias. Alors,
moi aussi.
Mon couple doit être en bonne santé.
Oui, c'est ça. Donc, augmenter la confiance envers les autres, être plus rationnel, moins méfiant, vérifier ses soucis et voir pourquoi on est si craintif. Et si nos soucis sont basés, bien, partir, ma foi. Ouais. S'il vous plaît. Les chevilles, quant à elles, c'est des désirs qui sont réprimés. On s'oublie soi-même. Ces désirs profonds, on les nie. On n'accorde pas l'attention qu'ils méritent. On ne se permet pas d'éprouver du plaisir. On travaille trop et nos rêves en souffrent. Travaillez moins. Êtes moins dans le « je dois », dans le « il faut ». Couchez-vous sur un hamac. Partez dans votre imagination. Rêvez. Ça va faire du bien et qui sait ce qui peut en ressortir.
Ben oui.
Et finalement, les pieds, c'est un petit peu du désespoir et de l'apathie qui mène à ne pas vouloir avancer, tu t'en douteras bien, les pieds servent à marcher. Avancer, continuer, la peur de vivre qui est souvent reliée à des croyances comme le monde va mal, le monde est dangereux, demain est sans espoir. Et c'est souvent associé à des états dépressifs. On se rappelle que Susan Babel, qui est derrière cette théorie-là, était spécialiste de la dépression. Un truc, ben, on va aller vers un traitement similaire à la dépression, revenir aux choses de base, aux plaisirs, aux petits plaisirs de la vie, se rapprocher de la nature, la contemplation, donner un sens à notre existence pour être curieux de ce que demain nous apporte.
C'est un peu réapprendre à vivre également selon de nouvelles priorités.
Idéalement.
Ouais.
Et beaucoup de confiance et d'espoir.
Ben, et ça, c'est sûr que c'est des moteurs fort importants, notamment l'espoir. Encore une fois, merci beaucoup, Emmanuel Robitaille. J'espère qu'on va prendre, que vous avez bien entendu, chers auditeurs, tous les excellents conseils d'Emmanuel, encore une fois, cette semaine.
Bonne semaine!
Le petit sourire des jours où tu veux pas pleurer, tes mirages d'amour, tes demandes d'amitié. Les années en bascule, chargées comme une mule, un monde dans les bras que personne ne voit. Sur les murs de la tour où tu restes caché, le chant des gens autour est venu s'échouer, à fuir tes peines perdues, à foncer tête baissée. T'es-tu jamais rendu plus loin que le bout de ton nez? Comment peut-on toujours vivre sans déranger, avoir le cœur si lourd et le pas si léger? Comment peut-on toujours vivre sans déranger, avoir le cœur si lourd et le pas si léger? Regarde ton dos voûté dans le reflet de la vitrine. Un géant roule son rocher tout au creux de ta poitrine. Tu cries du bout des yeux, tu marches sans tomber. Pardon, dites-moi, monsieur, c'est par où le monde entier? Comment peut-on toujours vivre sans déranger, avoir le cœur si lourd et le pas si léger? Comment peut-on toujours vivre sans déranger, avoir le cœur si lourd et le pas si léger? Ça rame dans ton corps au tambour des galères, des gens s'amusent dehors. Qu'est-ce que t'attends pour venir nous donner la main? J'attends juste le jour où j'aurai plus peur de rien.
Tu nous choisis toujours de l'excellente musique, Emmanuel, et pour ça, j'en suis reconnaissant. Puis c'est, on a, là, on a un point commun très fort avec Émile Procloutier. Les deux, on l'aime beaucoup. Moi aussi, je pense que c'est mon crush.
C'est mon crush québécois, je l'avoue.
Il sera au 35e symposium organisé du côté de Baie-Saint-Paul au Musée des Arts Contemporains, ce qui nous emmène donc à notre prochain sujet, alors qu'on s'entretient par téléphone avec Sylvie Lacerte, directrice artistique du symposium en question. Bonjour, Sylvie.
Bonjour, bonjour.
C'est la 37e édition, mais il y a de la nouveauté à ce symposium cette année qui va avoir lieu du 26 juillet au 25 août prochain du côté de Baie-Saint-Paul.
Ben, la nouveauté, en fait, elle était plus l'année dernière quand on a déménagé dans le pavillon Jacques-Saint-Gelais-Tremblay, qui ne s'appelait pas comme ça encore, dans l'ancienne école Thomas Tremblay. Et donc, ça, c'est vraiment un privilège de pouvoir réaliser le symposium dans cette ancienne école que plusieurs résidents de Baie-Saint-Paul ont d'ailleurs fréquenté. La nouveauté, c'est que les artistes vont créer des œuvres in situ, c'est-à-dire pour le site même, puisque La thématique cette année, c'est art, architecture, paysage et environnement. Donc, paysage, évidemment, on pense au paysage de Charlevoix, au mélange entre art et architecture. Et puis, l'environnement, c'est un sujet qui est très préoccupant en ce moment. Donc, plusieurs artistes ont ce sujet-là à cœur dans leur pratique artistique. Alors, c'était intéressant d'inviter les artistes à travailler à l'intérieur de cette thématique.
Ouais, donc en fait, si je comprends bien, Sylvie, votre déménagement vous a inspiré le thème de cette année.
Oui, oui, absolument, absolument, parce que c'est un lieu tout à fait rêvé pour réaliser cette thématique-là. Et puis, on l'a vu avec les dossiers qui nous ont été envoyés après l'appel à projet. Donc, on a eu de très, très bons dossiers qui ont été présentés cette année. Donc, les choix ont été parfois déchirants parce qu'on avait souvent de très bonnes...
C'est un beau problème.
Oui, c'est un problème de riche. Problème, en effet.
Pour ceux qui ne connaissent pas les lieux autour de Baie-Saint-Paul, pourquoi est-ce que les lieux en question, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais allés, étaient particulièrement inspirants pour les artistes qui ont soumis leur candidature pour ce symposium? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier, de si charismatique, en fait, dans vos lieux?
Ben, en fait, le paysage même de Baie-Saint-Paul est unique à cause de sa topographie créée par la chute de la fameuse météorite il y a 400 millions d'années. C'est ce qui a formé le paysage aux alentours de Baie-Saint-Paul, mais dans tout Charlevoix. Et donc, c'était intéressant aussi d'exploiter un peu cette topographie très particulière. Et il y a certains artistes, d'ailleurs, qui, dans les 12 qui ont été choisis, qui vont s'intéresser à ça. Il y en a d'autres qui vont aborder ça de façon tout à fait différente en essayant de créer des liens entre l'art et l'architecture qu'on retrouve aussi dans Charlevoix, l'architecture vernaculaire et tout ça. Et d'autres qui s'attachent à la question de l'environnement, le fleuve, les changements climatiques, etc. Donc, y en aura pour tous les goûts, en tous les cas.
Oui, puis un beau lien à faire avec votre thème de l'année passée qui était l'art et la politique, parce que le territoire, le lieu, l'architecture, ce sont des notions qui sont foncièrement, en fait, politiques, parce que ça peut être des facteurs d'inclusion, des facteurs d'exclusion.
Exactement, exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est sûr que moi, j'essaie là, dans mon mandat de 3 ans, de comme je disais dans mon texte, d'avoir un fil d'Ariane là, qui relie en quelque sorte chacune des thématiques, parce que c'est sûr que art, architecture, paysage et environnement, c'est politique au sens sociologique et philosophique du terme, là, pas au sens partisan, évidemment.
Non.
Bien que ça peut s'en aller là-dedans aussi, mais les artistes, eux, sont plus intéressés à cette notion philosophique là, qui fait que le paysage devient aussi le reflet des personnes qui l'habitent.
Absolument.
Donc, c'est ça qui est intéressant.
Et un thème avec lequel nous, ici, on est familier, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, Sylvie, mais nous, on est une radio qui s'intéresse beaucoup au handicap et le processus de production du handicap est causé par l'environnement, par l'architecture. Donc, évidemment, ça en est un bel exemple, en fait, que l'architecture peut avoir une incidence sur le mieux-être et l'inclusion des personnes. En ce qui concerne votre lieu, c'est seulement le rez-de-chaussée qui est accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Oui, malheureusement, c'est sûr. Le musée va devoir faire des grandes demandes de subventions pour mettre le bâtiment aux normes et justement pouvoir avoir un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, évidemment, ça prend énormément d'argent pour pouvoir faire ça. Et on espère que ça pourra être fait le plus rapidement possible parce qu'on est tout à fait conscient que c'est un moins là, en ce qui nous concerne. Parce que dans le musée, il y a un ascenseur, mais dans l'école, là, il n'y en a pas. Donc, il faut que cette situation-là soit... solutionné.
Le rez-de-chaussée reste accessible par contre. Qu'est-ce qui se trouve au rez-de-chaussée cette année? Est-ce qu'il y a des choses à voir? Est-ce que ça vaudrait la peine de se déplacer quand même?
Ben, écoutez, il va y avoir toute une série de conférences à tous les samedis. Ça, c'est possible, évidemment, pour les gens à mobilité réduite de pouvoir aller là. On va avoir quatre conférences d'artistes et de personnes qui sont spécialisées en architecture et en paysage. Et aussi, on a une programmation cinématographique à tous les jeudis à 20h dans la grande salle où auront lieu les conférences aussi. Chacun des films est lié à la thématique de cette année. Donc, ça peut être très intéressant. Puis en plus, on va avoir un film sur Yolande Simard-Perrault qui s'appelle La fille du cratère. Donc, c'est un documentaire sur Madame Simard-Perrault, qui, vous savez, était la veuve du cinéaste Pierre Perrault, et qui s'est intéressée toute sa vie à l'astroblème de Charlevoix, au cratère, et qui a fait des études là-dessus. Donc, les deux cinéastes ont fait un documentaire sur cette démarche-là, et ça devrait être assez intéressant. On avait invité Madame Simard-Perrault, mais malheureusement, comme vous le savez probablement, elle est décédée la semaine dernière. Alors, le film sera un hommage rendu à sa mémoire, et puis il y aura probablement un des deux réalisateurs qui sera présent aussi pour une discussion après la projection du film.
Ça commence toutes ces activités le 26 juillet, des artistes d'un peu partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, qui vont se déplacer du côté de Baie-Saint-Paul, et ça va prendre fin le dimanche 25 août avec un spectacle de clôture offert par nul autre que Émile Proulx-Cloutier, qu'Emmanuel et moi on aime beaucoup. Peut-être un mot en terminant sur son spectacle, s'il vous plaît, Sylvie.
Ben, écoutez, ça va être un spectacle intimiste. Il va être seul sur scène. Il n'aura pas de musicien avec lui. Il va être au piano. Le titre de son spectacle s'appelle « Au cœur des cités grises », qui est le titre d'une de ses chansons, mais il aimait donner le titre à ce spectacle parce que les cités grises, évidemment, ça nous fait penser à la thématique du symposium. Et alors, ça sera un répertoire des chansons de son premier, de son deuxième album. Alors, on a bien hâte de l'entendre.
Et qui sait, peut-être qu'il lui aussi sera inspiré par le lieu et qui fera un spectacle unique pour vous, pour ce symposium-là.
On l'espère et je n'en ai aucun doute.
Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'était fort agréable.
On se déplace chez vous bientôt.
Merci, ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Et on s'est déplacé beaucoup. On est allé aujourd'hui faire du vélo. On a été à Carleton-sur-Mer parler à Simon Boulris. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il me semble qu'on...
On s'est promené dans notre intestin.
On s'est promené dans notre intestin, c'est vrai. Puis on s'est déplacé du côté...
S'est déplacé du côté des topos pré-enregistrés. Louis, on a été rejoindre Louis dans un autre espace-temps, effectivement, quand François et moi, on a discuté avec lui de notre corps. On a visité notre corps beaucoup. Oui. Mais une chose, c'est sûr, on était en studio ensemble encore pour 1h30, qui s'achève actuellement, qui était encore une fois très agréable. J'espère que vous avez passé un bon moment à la maison, au travail, avec nous également. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, si vous êtes au travail, seul, en famille, en couple, qui sait, avec vos animaux de compagnie, Maya.
Peut-être, oui. Peu importe, ça nous a fait plaisir de vous parler. Et on sera de retour demain pour notre formule habituelle, Emmanuel.
On est de retour demain pour notre formule habituelle, 11h30, sans faute.
Sans faute, heure tapant.
Voilà.
Une invitation pour terminer l'émission. Si des gens parmi vous sont des fans de jeux vidéo, sachez que Ubisoft est en ce moment à la recherche de candidats pour tester leurs jeux vidéo avec des joueurs en situation de handicap, que ce soit handicap auditif, visuel ou motricité fine.
Ah oui?
Les informations se trouvent sur la page Facebook du comité des usagers d'INLB avec l'adresse courriel pour s'y inscrire. Moi, je me suis déjà inscrit étant un gamer moi-même.
Je le prends en note je te remercie pour cette nouvelle. Merci Maurice en régie, merci Louis à la coordination, merci Claire à la recherche. Merci tout le monde, à demain.